Ouais, comme Charles et Patricia nous ont accompagnés jusqu'ici. Et en ont longuement parlé. La présence attentive, la tranquillité mentale, l'investigation, hein, sont cultivées de manière intentionnelle pour davantage de lucidité, de clarté sur notre expérience. Et cette lucidité, cette clarté peut nous permettre d'être davantage en contact avec une forme de sagesse. Et cette sagesse nous éclaire sur tous nos mécanismes de souffrance et la possibilité aussi de s'en libérer. Et donc ça peut être quand même assez confrontant comme pratique. On est confronté en lien direct à cette première noble vérité qu'est l'existence de la souffrance. Donc, il y a vraiment un terrain de confrontation là, avec les enseignements du Dharma. Et heureusement, le Dharma propose aussi un terrain de consolation, j'ai envie de dire. Qui sont cette possibilité d'ouverture du cœur. Toutes les qualités de cœur que nous pouvons également nourrir intentionnellement dans notre pratique et qui peuvent également soutenir ce cheminement vers la sagesse, vers la liberté. Et donc c'est de cela que j'avais envie de vous parler ce soir. Sur ce terrain de consolation et de finalement, qu'est-ce que c'est cette ouverture du cœur? Comment permettre à ce processus de se déployer? Et donc, dans les enseignements, et pour la plupart, vous êtes sans doute très familier avec les quatre qualités de cœur, les quatre Brahmaviharas, les quatre demeures sublimes. Quatre illimités, les quatre incommensurables, hein, que sont metta, karuna, mudita, upekkha. Donc la bienveillance, la compassion, la joie appréciative et l'équanimité. Et comme le terrain est assez vaste, ce soir peut-être juste de se concentrer sur metta, la bienveillance. Qui occupe une place de choix dans les enseignements. Non seulement les Brahmaviharas, mais aussi metta est un des 10 paramis, de ces 10 qualités, ces 10 qualités vertueuses qui nous permettent de nous accompagner dans ce cheminement. Je vais juste en nommer quelques-unes ici, peut-être pas les 10, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais des qualités qui ont déjà été nommées jusqu'ici, comme la patience, l'honnêteté, la détermination. La bienveillance en fait partie. Et j'avais envie aussi de vous partager une petite phrase qui montre l'importance de metta dans les enseignements. Même si l'on rassemble toute la lumière des étoiles, cela n'égalera jamais l'éclat de la lune. De même, si l'on pouvait additionner tous les actes vertueux que nous avons accomplis dans ce monde, cela n'égalerait jamais la pratique de metta. Donc c'est une belle invitation à cultiver cette qualité de cœur. Et donc bien sûr, la lucidité, la clarté que nous cultivons, elle va de pair, ou en tout cas elle est nourrie, elle est soutenue par cette dimension de cœur. Donc ces deux dimensions travaillent vraiment ensemble, se soutiennent mutuellement. sont inséparables sur le chemin pour pouvoir vraiment profiter du plein potentiel de ce cheminement. Et donc cette qualité de cœur, c'est vraiment finalement une manifestation de notre pratique dans le monde. C'est là que ça va se manifester de manière palpable, tangible, concrète, dans la relation que nous entretenons vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, et vis-à-vis du monde de manière générale. C'est la manière dont notre cœur s'ouvre, qui est vraiment l'expression de la sagesse de notre pratique. Donc une dimension vraiment importante ici, qui est une dimension bien sûr relationnelle. La manière dont je vais me relier à l'instant, à l'expérience, à l'autre. Et donc, comme vous le savez, metta vient de maitri en sanskrit, qui veut dire amitié. Et dans les traductions, il y a pas mal de débats entre amour, amour bienveillant, bienveillance, amitié, gentillesse, chaleur, sympathie, harmonie. Et donc de peut-être voir pour nous-mêmes comment ces mots résonnent. Il y en a peut-être un qui résonne davantage pour nous et qui peut faire davantage de sens. Mais le sens général, c'est vraiment de pouvoir être bon avec nous-mêmes, de se traiter comme un ami, une amie, d'être une bonne compagnie pour soi-même, de se traiter vraiment avec cette dimension de sollicitude. Et accompagné de cela, il y a aussi cette attitude de non-violence, de non-hostilité, de non-opposition, une absence d'aversion ou d'animosité. C'est radical en fait, une absence d'animosité, une absence d'hostilité dans notre rapport à. C'est vraiment une posture radicale dans un monde aujourd'hui qui connaît une terrible violence, qui a tendance à répondre à la violence par la violence. Donc ici, c'est vraiment une attitude qui va à contre-courant, et qui est d'autant plus nécessaire en ces temps de conflit. Donc ça demande du courage d'entretenir cette qualité d'amitié et de non-hostilité. Et metta, c'est bien sûr aussi la générosité et l'ouverture du cœur qui souhaite profondément le bien, le bonheur de chacun, chacune. Donc c'est vraiment cette disponibilité du cœur envers l'expérience, quelle qu'elle soit, que l'expérience soit entre guillemets intérieure ou extérieure, que ce soit une autre personne. Cette capacité à prendre soin, la dimension de soin ici est importante. De pouvoir apporter une attention soignée à l'expérience. Donc c'est tout un apprentissage que de nourrir cette qualité bénéfique, d'aller nourrir notre cœur de cette qualité-là. Ça demande de nouveau de l'intention, et Patricia en a parlé hier soir de cette notion d'intention, l'intention de cultiver la bienveillance. Et l'intention de bienveillance, c'est vraiment une des trois intentions justes dans le noble sentier octuple. En plus de l'intention du renoncement et de l'intention de ne pas nuire. L'intention de bienveillance y est mentionnée pour pouvoir soutenir cette compréhension juste de la réalité telle qu'elle est. Et cette intention de bienveillance, elle peut alors se traduire, comme vous le savez, hein, dans le noble sentier octuple, l'intention, la pensée juste, hein, le fait d'utiliser nos pensées à bon escient, envers le bénéfique, eh bien, va se traduire en parole, en action et en moyen juste d'existence. Donc c'est ça que nous cultivons ici, cette intention de bienveillance. Ce n'est pas que nous allons vivre nécessairement des expériences de bienveillance, mais nous cultivons cette intention. Nous semons ces graines qui peuvent germer à leur rythme. Et donc c'est une qualité qui est déjà accessible en nous. Ça c'est quand même la bonne nouvelle. Elle n'est pas à produire, à créer, à fabriquer. Il n'y a pas de sentiment particulier à faire apparaître. Non, mais cette qualité, elle est vraiment à révéler, à encourager, à cultiver. Et même plus qu'à cultiver. Je vais juste vous lire un petit passage d'un sutra. Voilà, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai lu ce passage, bon, la traduction est peut-être un petit peu bancale, comme diraient les Canadiens. Mais il dit « La libération de l'esprit par la bonté sera cultivée, développée, suivie, utilisée comme guide, prise comme fondement de vie, ancrée, renforcée, consolidée et pratiquée en profondeur. » Donc le Bouddha s'est pas contenté de juste écrire. Enfin, c'est pas le Bouddha qui écrit, mais c'est pas contenté de juste dire cultiver. Il y a toute cette liste de mots qui pointe vers vraiment le déploiement de cette qualité et le renforcement de cette qualité. Donc il y a vraiment un processus là qui peut se dessiner. Et donc on a un sacré encouragement, je trouve, de la part du Bouddha pour cultiver cette qualité de cœur. Et donc elle est disponible en nous, elle est déjà là, et d'ailleurs nous l'avons certainement déjà goûtée à multiples reprises, certainement ici, dans ces circonstances privilégiées d'être en retraite ensemble avec des amis spirituels, avec toutes ces conditions. Voilà, où nous baignons déjà dans beaucoup de soins. Il y a beaucoup de personnes qui prennent soin de nous ici. Nous prenons soin mutuellement les uns des autres. Est-ce que nous sommes déjà arrêtés sur cette qualité de bienveillance qui est déjà présente ici? Ça peut peut-être paraître, elle peut peut-être être prise pour acquis. Surtout si on fait beaucoup de retraites, ça peut paraître normal qu'il y ait ce soin entre nous qui soit déjà disponible. Mais si on s'arrête un instant, est-ce qu'on peut vraiment honorer cette bienveillance qui est déjà là, ici? Vous vous imaginez dans le réfectoire, sans cette qualité de bienveillance, ce serait le chaos. Hein, on se marcherait sur les pieds, il y aurait des assiettes par terre. Voilà, j'ai pas fait un plus grand scénario que ça, mais de se rendre compte, moi je suis très touchée... de ce petit bal de pas de droite à gauche pour vraiment naviguer dans ces petits espaces réduits, de voir tout le soin que nous prenons pour être ensemble et pour que ça se passe de manière fluide, sans collision. C'est beau en fait. Est-ce que nous pouvons vraiment en prendre à la mesure? Moi en tout cas, c'est une expérience qui m'a ouvert le cœur à plusieurs reprises pendant ces moments de repas ensemble. Donc de pouvoir vraiment goûter à ce qui est déjà présent. Et bien sûr, nous perdons souvent le contact avec cette qualité de cœur aussi. Il suffit d'un regard, d'un geste, quoi que ce soit d'autre, et hop, le cœur se referme. Et donc ça peut être intéressant de voir aussi... que cette qualité, elle n'atteint clairement pas la grandeur de son plein potentiel. qu'il y a vraiment de l'espace pour la cultiver. Et c'est pour ça qu'on l'appelle une qualité illimitée, parce qu'elle peut être cultivée en toutes circonstances et envers tous et toutes, sans distinction, sans parti pris, sans faire de différence. Donc il y a vraiment un grand potentiel de développement de cette qualité de cœur. Et c'est une qualité qui peut être cultivée quelles que soient les conditions. Pas uniquement quand toutes les conditions sont réunies, quand toutes les conditions sont favorables, quand toutes les conditions sont en lien avec nos attentes, avec ce qui est souhaitable, ce qui est souhaité. Quand il y a du calme, du contentement, de la joie, alors c'est peut-être oui, en effet, plus facile d'être bienveillant. Mais quand l'autre ne répond pas à nos attentes, ou quand il est en désaccord avec nos opinions, ou quand notre esprit n'est pas coopératif, est-ce qu'il est possible encore de maintenir cette qualité de lien-là? Et donc le Bouddha nous recommande de commencer cette cultivation de la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que la bienveillance pour les autres n'est possible que si nous nous sommes entraînés pour nous-mêmes, comme si nous avons pu cultiver cette qualité de cœur déjà vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre expérience. De manière à ce qu'elle puisse devenir alors une tendance spontanée, naturelle, qui peut alors rejaillir dans nos relations aux autres. Et donc il s'agit bien aussi d'une qualité qui est complètement désintéressée. Donc on ne pratique pas la bienveillance pour obtenir quelque chose. La bienveillance elle-même, elle n'attend rien en retour, elle n'exige rien. On ne pratique pas metta pour faire une expérience particulière ou pour ressentir quelque chose de particulier, pour faire disparaître une expérience qui ne nous convient pas, que ce soit un inconfort physique, une douleur émotionnelle, ou pour obtenir quelque chose de la part de l'autre. Que l'autre soit moins réactif, en colère, en notre présence, ou qu'il soit différent en notre présence. La bienveillance elle-même est bénéfique. Nous pouvons vraiment ressentir les bienfaits de cette énergie. Martin Elward, qui est un enseignant ici, qui vit ici, dit que rien n'est plus gratifiant que l'amour lui-même. Donc de juste se contenter de cet élan de cœur, sans rien attendre en retour. Porter attention à l'expérience, c'est déjà un acte de bienveillance. Porter attention à l'expérience, c'est déjà prendre soin de cette expérience qui émerge. La présence elle-même révèle l'expérience et puis Metta peut en prendre soin. Donc c'est déjà énorme que de pouvoir être présent à l'expérience. C'est une forme de soin, de bienveillance. Et d'ailleurs, Dipama, qui était une méditante chevronnée qui a suivi les enseignements de Munindra, et qui a atteint des états de concentration assez avancés et qui a enseigné la méditation aussi de son côté, ne fait pas la distinction entre attention et amour. Pour elle, ça ne fait qu'un. Et elle dit, quand le cœur est plein de bienveillance, n'es-tu pas pleinement présent et conscient? Et quand tu es pleinement présent et conscient, n'est-ce pas aussi l'essence de l'amour? Donc on voit ici qu'il n'y a rien de particulier à à cultiver. C'est une manière de cultiver la bienveillance, déjà en étant en contact, en portant attention, en ayant cette intention de porter attention. Donc présence et bienveillance sont en quelque sorte inséparables. C'est un petit peu la... J'ai envie de dire la présence et la lumière, et puis la bienveillance, la chaleur. La lumière et la chaleur de la pleine conscience. Donc amener cet esprit d'amitié plutôt qu'un esprit d'hostilité envers ce qui est éprouvé d'un instant à l'autre, envers soi, c'est une qualité qui permet de développer une plus grande capacité à être en lien avec l'expérience, à demeurer au contact. C'est vraiment une qualité qui permet la connexion, qui permet le contact, qui permet la reliance. Là où habituellement on peut se distancier, se détourner, être déconnecté, peut-être même se durcir autour de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment un point crucial. Dans le sens où, où la liberté, elle n'est pas à côté de l'expérience, elle est vraiment dans l'expérience elle-même. Donc, metta, avec son effet de liant, un liant en fait, permet d'être au contact de l'expérience. Donc il y a quelque chose de plus proche, de plus en lien. Une qualité qui donne un peu plus d'espace à l'expérience et qui permet de nous accompagner dans la rencontre déjà. C'est pas toujours le cas. La rencontre n'est pas toujours au rendez-vous, n'est-ce pas? Et donc oui, on a vraiment besoin, je sais pas pour vous, mais besoin de beaucoup d'amitié, de douceur, pour déjà pouvoir rencontrer et apprendre à connaître cet esprit qui n'en fait qu'à sa tête, cet esprit malicieux, rusé, malin, et toutes ces habitudes de diversion, de manipulation et autres. Et donc j'imagine que je ne suis pas la seule ici à avoir considéré plus d'une fois mon esprit comme un véritable ennemi à combattre. Quand il y a toutes ces pensées bien collantes qui se répètent incessamment sur toute la durée d'une assise. Il peut y avoir un peu d'hostilité par rapport à tout ça, n'est-ce pas? Donc c'est pas si simple de cultiver cette qualité d'amitié. Ça demande de la pratique. On a aussi besoin d'amitié pour être en contact avec le corps, avec sa condition du moment, son apparence aussi, qui ne correspond pas toujours à ce que nous souhaitons. Sa nature fragile, vulnérable, vieillissante. Ça demande de l'amitié pour aller vers, pour rencontrer. En bref, ça demande de l'amitié pour nous rencontrer avec toutes nos névroses. À nous rencontrer tels que nous sommes et pas comme nous souhaiterions être. Ça demande aussi beaucoup d'amitié pour rencontrer l'incertitude, l'inconnu. Ce n'est pas ce qu'on va découvrir quand on pratique, ce qu'on va découvrir d'un instant à l'autre. Donc, quand il y a la présence de metta, il y a vraiment une meilleure disposition à pouvoir s'ouvrir à l'expérience, à pouvoir la recevoir, l'accueillir. Permettre qu'elle soit là, tout simplement. Et Joseph Goldstein dit que c'est une ouverture du cœur simple et naturelle qui laisse entrer le monde. Voilà, que ce soit finalement le monde intérieur ou le monde extérieur, si on fait la distinction. Donc cette capacité à laisser entrer. Pas toujours simple. Donc j'avais envie de vous proposer une petite imagination. Imaginez traiter un ami ou des amis comme vous traitez vos expériences. Déjà, quand il frappe, on ne lui ouvre pas la porte. Il doit sonner plusieurs fois avant d'être entendu. Puis vous finissez par lui ouvrir et vous lui demandez de se changer. Puis il n'est même pas rentré, que vous le mettez déjà dehors. Alors, soit il a le temps de s'installer dans le canapé, pendant ce temps-là, vous partez dans la chambre. Puis finalement, il veut partir, mais vous ne voulez pas qu'il parte. Vous l'attachez sur le canapé. Enfin, c'est un peu dingue quand on le renverse comme ça, non ? Donc, comment est-ce possible de pouvoir vraiment traiter nos expériences comme un ami ? Un ami, on... Si on est là, il sonne, on lui ouvre la porte, même si ce n'est pas spécialement un bon moment pour qu'il surgisse, on l'accueille quand même. On prend un peu le temps. Donc c'est vraiment cette qualité-là de métta. Et donc ça peut être intéressant de revenir à ce facteur d'investigation et de remarquer dans notre pratique vraiment avec quelle attitude... je porte attention. Quel est le rapport à l'expérience ? Quelle est l'atmosphère dans laquelle je rencontre l'expérience ? Quand il y a cette rencontre ? Peut-être qu'on se dit, oui, ça respire, ok, le corps est assis, ok, il n'y a rien de nouveau, tout ça je connais. Ça peut être ennuyeux. Voilà, est-ce qu'il peut y avoir un lien d'amitié avec simplement la respiration ou la présence au corps ? Ça peut être très simple. C'est déjà l'occasion de s'entraîner avec, entre guillemets, une expérience plus simple. Si on est déjà en train de prendre le contrôle du souffle, c'est comme demander à notre ami de se changer en quelque sorte. Et donc, metta a vraiment aussi un effet de, j'ai envie de dire, d'assouplissement. Patricia nomme souvent l'effet lubrifiant, un petit peu comme un baume qui peut venir alors assouplir le cœur. À l'image d'une terre sèche, aride, dure, qui vient être assouplie par la pluie, par les gouttes de pluie. La terre sèche, c'est notre cœur endurci par toutes nos défenses, nos résistances. Et la pluie, c'est la pluie de métta, la bienveillance qui peut alors venir par le soutien de souhaits de bien ou simplement de cette disposition d'ouverture et d'accueil, venir détendre le cœur en quelque sorte, quand il y a de la bienveillance. Et donc toutes nos habitudes de nous contracter autour de l'expérience, que ce soit au travers de résistance, de rejet, de repli, même aussi subtil soit-il. Parfois, on croit être présent, on croit être bienveillant, mais en fait, en arrière-plan, il y a quand même une arrière-pensée de rejet ou une arrière-pensée de vouloir que ça se termine, de vouloir que cette émotion nous quitte, que c'est bon. On a l'impression de l'accueillir, de la ressentir, mais il y a quand même une autre attitude qui n'est pas toujours visible et qui ne va pas dans le sens de l'amitié, de la bienveillance. Toutes ces habitudes de culpabilité, de jugement, de blâme, tout ça peut, toutes ces habitudes de dureté aussi ou d'autocritique, ça peut commencer à plus facilement être délié, dénoué au contact de metta. Il y a un peu plus d'espace, il y a un peu plus de douceur. Donc en ce sens, metta a un effet adoucissant et protecteur. On dit souvent que c'est l'antidote à la négativité, à la colère, à la peur, au jugement, aux résistances. Quand il y a ce facteur mental metta, il n'y a plus la place pour un autre facteur mental. Il n'y a plus la place pour l'hostilité. Il n'y a plus la place pour la résistance, l'animosité. Donc c'est un choix que nous pouvons poser à chaque instant. Un choix qui peut se renouveler à chaque instant. Cultiver metta, c'est vraiment du goutte à goutte, d'instant en instant. Donc vous connaissez aussi peut-être cette histoire des moines qui font une retraite un peu comme nous ici, annuelle pendant la saison des pluies, un peu comme nous ici. Et qui partent donc dans la forêt, se trouver un joli spot, un peu comme ici, avec un petit étang, des arbres, des beaux arbres, pour qu'ils puissent méditer au pied des arbres. Et donc ils sont tout heureux, je romance un peu, hein. Ils sont tout heureux et s'installent au pied des arbres pour leur retraite de plusieurs mois. Et voilà que cette forêt est habitée par des esprits qui sont contents de voir les moines arriver méditer et en même temps ne souhaitaient pas spécialement leur présence aussi longtemps. Donc après quelques jours, les esprits décident de les effrayer. Et donc en faisant du bruit, en mettant des odeurs désagréables, nauséabondes, voilà. Ils utilisent tous les moyens du bord pour faire fuir les moines, ce qu'ils font. Tellement qu'ils sont effrayés, ils quittent la forêt et décident d'aller revoir le Bouddha pour lui demander s'il n'a pas une idée de où est-ce qu'ils pourraient continuer leur retraite dans un autre endroit. Et le Bouddha leur dit non, 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 non. C'est là que vous allez retourner pour votre retraite. Mais voici ce que vous allez pouvoir réciter dans cette forêt. Et qu'est-ce que le Bouddha leur donne? Eh bien, le sutra, le Metta Sutra, Metta Sutta. Donc, ce chant, on va peut-être le chanter ensemble d'ailleurs, pas ce soir, mais peut-être à un autre moment. Donc vraiment, cette invitation à rayonner des souhaits de bien pour tous les êtres. Et donc les moines repartent et récitent, avec vraiment détermination, persévérance, récitent ces souhaits. Et assez rapidement, les esprits sont vraiment touchés par ce sentiment de chaleur du cœur et deviennent beaucoup plus aimables. Et même très accueillants et prennent soin des moines. Donc, ce qu'on peut peut-être retirer de cette petite histoire, c'est que metta protège aussi de la peur. Ça m'éveille une expérience aussi personnelle quand j'ai commencé à pratiquer metta de manière active, soutenue, en voyant des souhaits de bien vis-à-vis de moi-même et puis vis-à-vis de personnes inconnues dans la rue. Je prenais beaucoup les transports en commun, je marchais beaucoup en rue. Et j'ai vraiment rapidement, sans connaître le contexte de metta, j'ai rapidement senti pour moi-même à quel point ça transformait la relation aux autres. Là où je pouvais avoir peur de certaines personnes qui avaient l'air un peu bizarres selon ma perspective, voilà, éméchées ou quoi que ce soit d'autre, la peur s'installait et donc l'envie de m'éloigner, de ne pas rentrer en contact, d'être complètement déconnectée. Et dès le moment où j'ai commencé à pratiquer ces souhaits de bien vis-à-vis de ces personnes que je croisais dans la rue, eh bien, ça a vraiment changé la qualité de connexion. Il y avait vraiment une connexion. Il n'y avait plus la peur qui prédominait. Il y avait juste cette intention de bien qui était présente. Et donc, peut-être l'envie par moment aussi de me rapprocher de ces personnes pour lesquelles précédemment il y avait cette peur qui était présente. Donc, ce n'était pas des esprits effrayants, mais je l'ai vraiment goûté très profondément. Et donc, quand Metta nous habite, eh bien, donc, il n'y a plus de place pour l'aversion. Le Bouddha nous dit, pour celui qui pratique correctement la libération du cœur par la bienveillance, l'aversion qui ne s'était pas encore développée ne vient pas à se développer. Et l'aversion déjà développée est abandonnée. Donc avec Metta, il y a vraiment cette possibilité d'éroder ces tendances à l'aversion, à ne pas vouloir l'expérience telle qu'elle est, à vouloir autre chose, à vouloir devenir quelqu'un d'autre, avoir un autre esprit, d'autres sensations corporelles, d'autres émotions. Donc c'est vraiment c'est en ça que Metta a un aspect libérateur, puisqu'elle ne crée pas davantage de troubles. Il y a vraiment cette disposition d'ouverture face à l'expérience, sans rajouter une couche d'hostilité, de jugement, de repli. Donc Metta peut vraiment nous donner une grande force intérieure, à la fois une souplesse, donc il y a vraiment cette souplesse, cet assouplissement du cœur, et en même temps une grande force intérieure pour pouvoir recevoir les expériences, les situations telles qu'elles sont. Ça peut nous donner une plus grande résilience par rapport à l'hostilité qui nous entoure. Marc Aurèle dit « La douceur est invincible ». Cette petite citation, elle était inscrite à Bruxelles sous un pont sur lequel je passais tous les jours. Donc ça m'a bien marqué « La douceur est invincible ». Ça montre la force, la puissance de cette qualité de douceur qui peut parfois être vue comme quelque chose de la sensiblerie ou de la mièvrerie ou... Donc vraiment de pouvoir intégrer cette puissance de la bienveillance. De la même manière que la présence elle-même est puissante. Et donc différentes manières de cultiver Metta. Cette possibilité de cultiver une attention, une présence attentionnée, une présence bienveillante par rapport à l'expérience qui surgit, quelle qu'elle soit désirable ou non désirable, hein, qu'elle nous plaise ou qu'elle nous déplaise. Ça peut aussi passer par la pratique des souhaits, hein, que Patricia et moi-même avons déjà guidé. Donc une pratique plus formel, des souhaits de bien à tous les autres êtres. Et puis ça peut aussi passer par de la réflexion, de remarquer quand est-ce qu'il y a la présence de la bienveillance, comment ça vit en moi, hein, quelle est la tonalité du paysage intérieur quand la bienveillance est là. Hein, de pouvoir vraiment l'éprouver directement au cœur de l'expérience. Cette qualité de douceur, comment elle se déploie, comment elle me fait sentir. Et quand la bienveillance n'est pas présente, quand il y a de la dureté, quand il y a de l'hostilité, comment ça me fait sentir? Quelle est la, la tonalité, la couleur de mon paysage intérieur. Donc c'est important de pouvoir se familiariser avec cette atmosphère intérieure quand il y a bienveillance et quand il y a absence de bienveillance. Ça va pouvoir permettre de nourrir cette qualité de discernement de ce qui est bénéfique et de ce qui ne l'est pas. De pouvoir choisir ce que nous souhaitons nourrir et ce que nous souhaitons plutôt abandonner. Et donc c'est ce facteur investigation, hein, c'est vraiment à nouveau, qui peut nous permettre de faire cette distinction. Et donc se souvenir qu'il y a vraiment une autre façon de nous relier à l'expérience. Que la façon habituelle, une façon libératrice qui ne crée pas davantage de troubles, qui ne cause pas davantage de tort, qui est en plus bienfaisante. On peut vraiment ressentir les bienfaits de cette attitude de bienveillance. Et donc qu'est-ce qui nous... Si c'est plaisant, si c'est bon, bénéfique, pourquoi nous en priver? C'est une vraie question, pourquoi nous nous en privons? Donc vraiment se souvenir que de cette attitude de metta hein, qui peut vraiment transformer notre façon d'être, hein, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, hein, notre façon d'être dans le monde. Une transformation qui se fait évidemment goutte à goutte, petit à petit, graduellement, accompagnée de patience et de détermination à la fois. Et peut-être pour terminer, une très courte phrase, très courte citation de Saint Augustin qui dit que la mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Donc une belle invitation à pouvoir se donner à cette attitude d'amitié, de douceur, de bienveillance, de metta. Voilà, peut-être de juste laisser les mots se dissoudre dans quelques instants de silence. Et merci beaucoup pour votre écoute. Merci.